de répondre à la demande.
En effet, à la demande et à la demande rapidement. On passe de M. Michaud au député Île-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. On va revenir sur le discours du premier ministre. C'est Joël Arsenault qui est au bout du fil. Monsieur Arsenault, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous?
Super bien. Merci de votre disponibilité aujourd'hui. Avant de parler du discours de François Legault, j'aimerais que vous me parliez de votre décision de quitter justement le Salon Rouge lors là, de l'allocution de la lieutenant-gouverneur.
Un simple geste de cohérence. Vous savez que le 27 mai dernier, à l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale, on a passé une résolution ou adopté une motion pour dire que le Québec devait rompre avec la monarchie. Alors, la prochaine occasion qui s'est manifestée, c'était hier. Est-ce qu'on reconnaît la légitimité de la lieutenant-gouverneur de venir nous entretenir des sujets qu'elle choisit avant le retour à l'Assemblée nationale pour les travaux? Nous, c'est clairement non. Et c'est la raison pour laquelle on est sorti discrètement le temps qu'elle fasse son discours pour revenir ensuite écouter le vrai discours, celui qui compte, celui du premier ministre qui allait inaugurer la nouvelle session.
Est-ce que Québec solidaire se cherche des amis chez les partisans péquistes pour avoir quitté avec vous?
Je ne le sais pas, mais ils avaient, dans le passé, signifié qu'ils étaient contre la monarchie. Ils n'étaient pas allés jusqu'à ne pas prêter serment au roi. Souvenez-vous là, de cet épisode de la fin de 2022. Ils étaient rentrés dans le rang en prononçant le serment derrière des portes closes. Hier, nous les avons informés environ une demi-heure avant la période de présentation des discours pour leur signifier ce qu'on avait l'intention de faire. Ils ont suivi avec nous. Est-ce qu'ils avaient pris la décision avant? On ne le sait pas trop, mais finalement, on pensait qu'ils étaient indépendantistes en principe. Donc, on voulait leur faire part de ça sans faire une esclandre, sans faire un spectacle. On voulait tout simplement se retirer, ce qu'on a fait, les deux parties.
Est-ce que, justement, on prépare déjà le camp du oui avec le fait que vous allez prôner pour la souveraineté lors du premier mandat?
Bien, je dirais qu'on prône d'abord et avant tout la cohérence. Et puis, à un moment donné, il faut se demander si les motions qu'on adopte au jour le jour, il y en a 3-4 par jour, en fait, à l'Assemblée nationale, si ça signifie quelque chose. Et c'est là où on s'interroge, parce que si on vote ces motions-là, puis qu'elles sont pas contraignantes, mais même sur le plan moral, on ne les respecte pas ni dans l'esprit ni dans la lettre, ça sert pas à grand-chose. Alors, nous, minimalement, c'est un geste qu'on devait poser hier. Pour ce qui est du camp du oui, on espère bien qu'ils seront avec nous le jour venu, effectivement. C'est une formation qui se dit indépendantiste, alors on souhaite bien les voir se ranger du côté du oui lorsqu'on fera la consultation, si les Québécois nous font confiance pour la prochaine élection.
Donc, ce discours inaugural de François Legault, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Nous, on n'a pas appris grand-chose dans ce discours-là. On dirait que tout avait été un peu coulé, communiqué dans les jours précédents, les semaines précédentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans le discours hier?
Ben non, on n'a rien appris de neuf. Vous avez raison, on avait déjà télégraphié tous les messages, les principales priorités du gouvernement. Essentiellement, ce qu'on en retire, c'est que le gouvernement fait avec nous le constat de l'échec de la gouvernance caquiste. Il fait un exercice de communication, essentiellement en disant qu'il va réparer ce qu'il a cassé. Mais à l'heure actuelle, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des Québécoises et Québécois qui aujourd'hui pensent que la prochaine année, le gouvernement va pouvoir corriger le tir sur à peu près tous les sujets, sur des dossiers qu'il n'a pas su régler ou même sur des phénomène qu'il a lui-même contribué à exacerber, à créer au cours des 7 dernières années. Nous, on pense que non. On pense qu'une vaste majorité de la population pense la même chose aussi. Quand il dit, par exemple, il faut changer les façons de faire, faut une nouvelle politique économique, faut réduire la taille de l'État alors qu'on l'a vu grossir au cours des dernières années. Lorsqu'il dit que bon, l'immigration incontrôlée du fédéral, oui, mais depuis 7 ans, qu'est-ce qu'on a obtenu du fédéral dans la troisième voie qui est proposée par M. Legault? Alors, tout ça, ça tourne un peu en rond. Je pense que la conclusion de plusieurs, du coup la nôtre, c'est que c'est pas en misant sur ce gouvernement-là qu'on va changer les choses.
Oui, Mario Dumont parlait dans sa chronique ce matin d'un gouvernement qui va tenter de faire tout en un an ce qu'il aurait dû faire en 4 ans. Concernant les grands oublis dans les priorités, Marois Risquet fait sa liste ce matin. J'aimerais entendre la vôtre. Quels sont les grands oubliés?
Écoutez, je suis content que vous abordiez le sujet. Je ne voulais pas que mes réponses soient trop longues, mais je suis content de pouvoir dire que c'est pas tellement ce qui a été dit, c'est ce qui a été pas, c'est ce qui n'a pas été dit ou abordé ou très succinctement par le premier ministre hier qui nous a déçus. On ne parle pas du tout de la crise du logement comme si elle était résorbée, comme si elle n'existait pas. On n'a pas parlé beaucoup non plus de la, comment on dit, de la capacité de payer des Québécois là, face à l'inflation. On a parlé de la santé uniquement sous l'angle du projet de loi 106 et puis des médecins qui doivent en faire davantage, alors que les enjeux sur l'accès aux soins et à la santé pour la population générale, mais pour les aînés, pour les familles, dépassent tellement plus largement cette simple question-là, qui est quand même problématique, qui est dans l'actualité, mais je me surprenais de voir que la question était résumée, la question de l'accès aux soins de santé était résumée à la bataille avec les médecins. La question de l'éducation, parce qu'on lui a reproché à la fin de son discours, présentant son remaniement, de ne pas avoir parlé d'éducation alors que c'était sa priorité annoncée depuis 7 ans. Mais là, il l'a mentionné hier. Ça ne veut pas dire que ma priorité, c'est pas l'éducation, mais qu'allez-vous faire? Absolument aucune idée. Les grandes mesures qu'il a annoncées, ça touche pas l'itinérance non plus, les services sociaux, mais les grandes mesures qu'il a voulu marteler, ce sont essentiellement des vœux pieux. J'ai demandé à tel ministre de se pencher sur un dossier. Je souhaite que l'autre ministre fasse le travail. Voici la directive que je donne au troisième ministre. On attend les résultats depuis 7 ans, puis je pense qu'on va les attendre encore pendant plusieurs mois.
C'est vrai qu'il a annoncé à quelques reprises qu'il allait éventuellement faire quelque chose. Il annonçait qu'il avait demandé qu'on annonce quelque chose. On verra s'il y a plus de précisions dans les prochaines semaines là-dessus. Oui. Sur la santé, je veux vous entendre parce que, il y a une réforme qui est en cours à l'heure actuelle. Il y a l'Agence Santé Québec qui a été créée, puis les gens sont un peu découragés, je pense, face au système de santé. J'aimerais ça savoir, dans les premiers mois d'un gouvernement péquiste, qu'est-ce qu'on ferait concrètement et précisément en matière de santé? Est-ce qu'on garde l'Agence Santé Québec? On continue avec les mêmes structures? Quelles mesures on met en place dans les 3 premiers mois, là, disons que vous êtes ministre de la Santé en 2026?
Ben écoutez, mais je suis content que vous abordiez la santé. C'est un sujet qui est préoccupant pour une vaste majorité de la population québécoise. Et c'est mon dossier depuis 6 ans. Et je vous le disais qu'hier, ben, juste en guise d'introduction, ce qui était absolument fascinant, c'est de voir, pas nécessairement hier, mais au cours des derniers jours, que l'une des compressions budgétaires qui est annoncée par le gouvernement, c'est de couper les dépenses dans les nouveaux Top Gun qu'il vient d'embaucher pour, en créant Santé Québec.
Oui, l'image frappe. On défait ce qu'on a fait.
C'est ça. Alors, nous, le chef s'est déjà prononcé en disant, et c'est toujours le cas, que Santé Québec était en examen, que cette structure-là, on ne la jugeait vraiment pas pertinente, mais qu'on allait voir si il était plus efficace de corriger la façon dont ça fonctionne, là où ça fait mal. Par exemple, dans la centralisation là, exacerbée qu'on a fait grâce à cette nouvelle créature-là et l'augmentation, évidemment, de la fonction publique, ou est-ce qu'on pouvait carrément l'abolir? Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est de lancer une autre nouvelle réforme, sachant que tous les employés et même les usagers du système de santé ont été traumatisés par la réforme Barrett de 2015 et des années suivantes.
Donc, on la garde, l'agence.
Et encore une fois, celle-ci. Non, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on va juger, entre deux mots, quel est le moindre, parce que vous imaginez qu'avec la fusion des établissements en un seul organisme, une agence qui est maintenant l'employeur unique. Si on décide de faire exploser ça, puis qu'on recrée des conseils d'administration, puis des unités spécifiques, puis des comptabilités différentes, puis est-ce que ça, c'est ce que les gens veulent, puis est-ce que ça va donner de meilleurs résultats sur le terrain? Parce que c'est ce que ça voudrait dire probablement aussi, là. Alors, c'est trouver la mécanique qui fait en sorte qu'on ne perd pas notre temps dans la démolition des structures existantes, alors que le gouvernement aura perdu son temps en en créant de nouvelles.
Donc, je comprends que votre réponse, c'est « on verra ».
Bien, en fait, plus spécifiquement que ça, je vais vous dire, là, on va redonner un pouvoir décisionnel aux gestionnaires de terrain, à tous les niveaux, pour que des gens soient imputables puis qu'ils soient aussi responsables de l'amélioration des soins sur le terrain. Ça, c'est la première orientation qui est claire, précise et qui, actuellement, n'est pas appliquée, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde jusqu'à Mme Biron en haut de la pyramide. C'est pour ça qu'il ne se passe rien et que personne n'est imputable puis qu'on continue de tourner en rond. L'autre élément, c'est la porte d'entrée vers les soins de santé. Il faut l'interdisciplinarité, il faut vraiment que ça ait un sens. C'est les portes d'entrée des CLSC sur lesquelles on va miser. Et ça va être un changement majeur parce qu'aujourd'hui, on ferme les CLSC à travers les régions du Québec puis un peu partout. Et on crée des cliniques privées puis on veut créer des mini-hôpitaux privés. Et c'est pas le sens de l'action qu'on veut apporter, là. C'est tout le contraire de la centralisation actuelle. On veut l'imputabilité, mais également une décentralisation puis des gens qui sont responsables sur le terrain d'améliorer les choses. Parce qu'il n'y a pas une solution unique, une panacée pour l'ensemble du réseau. Là. Les réalités ne sont pas les mêmes dans chaque Maisonneuve que sur la Côte-Nord, en Abitibi ou aux Îles-de-la-Madeleine. Il faut à un moment donné que ça se traduise par des pouvoirs décisionnels sur le terrain.
Joël Arsenault est député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. On vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au plaisir de se reparler.
Merci à vous, toujours un plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. C'était Joël Arsenault, justement, député pour le PQ, porte-parole en matière de santé. Le PQ est en train de changer son fusil d'épaule sur Santé Québec parce que lorsque ça a été créé, autant Paul Saint-Pierre Plamondon que Pascal Paradis, ici en studio à Boulevard, nous ont dit Santé Québec, on n'y croit pas. Et là, soudainement, on ne veut pas défaire une structure qui a déjà été faite.
Mais c'est un dilemme qui est réel parce que il y a eu beaucoup de réformes dans les dernières années.
Oui.
Fait que là, est-ce que c'est winner pour un parti politique d'arriver et de dire on va refaire une réforme, on va défaire la réforme que vous êtes encore essoufflé qu'on soit en train de faire?
Ouais.
On va refaire. Je les comprends, mais en même temps, ça manque un petit peu de clarté comme position.
Vraiment, ça manque clairement de... Tu sais, honnêtement, M. Arsenault tentait de me l'expliquer, puis je comprenais pas trop où le PQ s'en allait, alors que ça serait plus facile de dire on la garde ou on la rejette plutôt que...
Mais on veut plus de décentralisation.
Oui.
Puis on veut pas refaire des structures, des conseils d'administration. Mm-hmm. Donc là, je dis, donc on garde Santé Québec.
C'est ça.
Ouais, mais non.
Non, oui, parce qu'on veut donner plus de pouvoir aux gens qui sont sur le terrain.
Écoute, ils vont devoir préciser, parce qu'en campagne électorale ou en débat, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pendant la campagne électorale. La santé, tu sais, peut-être que c'était pas une priorité dans le discours du premier ministre hier. Je suis assez d'accord avec lui que ça a été effleuré juste dans la lunette des médecins. Mais ça demeure une priorité pour les citoyens.
C'est sûr.
Ça nous touche dans notre quotidien.
Tu fais un sondage demain matin, là, santé, éducation, logement, coût de la vie.
Mais en même temps, j'espère que cette année, on ne va pas encore entendre des promesses irréalistes. Un Québécois, un médecin, des affaires de même.
Ah, c'est ça. Tout le monde va avoir une place en garderie.
Non, arrêtez de nous promettre des affaires que vous n'êtes pas capable de livrer. Faut avoir accès à la première ligne. Je pense que des promesses comme augmenter le rôle que jouent les autres professionnels de la santé, c'est winner. Il faut continuer dans cette voie-là, oui. Mais on ne veut plus de promesses qui flashent, là, mais que finalement, après, ça fait juste alimenter le cynisme.
Moi, je ne suis pas du style à ce qu'on défasse ce que l'autre gouvernement a fait avant, parce que sinon, je trouve qu'on est toujours en train de reculer, de refaire des structures, puis on n'avance pas à ce moment-là. Puis toujours le citoyen qui paye en bout de ligne parce que pendant on travaille sur... les organigrammes plutôt que sur le service direct aux citoyens.
Bien dit.
Par contre, Santé Québec, je comprends pas son existence. Fait que ça, un parti arriverait et dirait « c'est fini, Santé Québec ».
C'est un défi.
Je remets ça au ministère, je comprends pas son existence.
C'est un défi parce que c'est tellement compliqué à expliquer en même temps.
Contrairement à Mobilité Infra-Québec, que ça, je comprends. Les sociétés de transport, c'est vrai. Il était poche pour faire des gros projets. La preuve ici, à Québec, on n'a pas le garde d'avancer le tramway. Il a fallu que le gouvernement se mette dedans. Donc, j'ai ça... J'étais pour, parce que c'est vrai qu'il y a des projets majeurs à faire en transport structurant.
T'es pour la bureaucratie, Gat.
C'était pas pour la bureaucratie, j'étais pour une expertise différente. Non, mais tu fais bien de me challenger. Mais je suis pour une expertise différente qui va venir nous aider à avancer plus vite. Parce que c'est vrai que tous les projets en transport structurant étaient latents. Et là, n'en déplaise à ceux qui se réveillent la nuit pour maugréer contre le tramway. Guys, tramway, SRB, faites ce que vous voulez. Mais on a besoin d'un service de transport structurant à Québec. La démographie augmente. Puis c'est pas vrai que ça va juste être avec nos chars, nos autoroutes que ça va fonctionner.
Alléluia. Merci de ce plaidoyer. Mais tu sais, juste pour terminer sur l'Agence Santé Québec, si tu la compares avec l'Agence des transports, il y avait une volonté du ministre Dubé de casser un peu la culture. Hein. Il avait changé de culture. Donc, il avait envie un peu de repartir quelque chose de nouveau où on allait faire venir des top guns du privé. Là, on est rendu plus capable, puis on roule des yeux. Mais c'était ça un peu l'esprit derrière ça. Puis aussi, d'avoir au niveau opérationnel, là, que ce soit pas au ministère qui est trop haut, qui est trop loin du terrain, de décider certaines choses. T'sais, l'idée n'était pas mauvaise, c'est juste que c'est long. Premièrement, c'est une révolution, c'est une grosse gestion du changement. Puis on dirait qu'on met beaucoup de pression pour avoir des résultats tout de suite. Mais c'est énorme, là, le réseau de la santé. Donc, bref, je ne sais pas si on va voir des résultats concrets d'ici la campagne électorale, mais Christian Dubé, il doit avoir envie qu'on commence à voir les résultats parce que ça commence à être la soupe chaude.
Oui, bien, c'est un boulet, puis ça a été un boulet que même le Kevin Brassard, le candidat d'Arthabasca, a dû traîner durant l'élection partielle. Nick, qui nous écrit, je suis dans le réseau de la santé, même nous, on ne sait pas à quoi sert Santé Québec. Ben, t'sais, c'est une problématique pareille. C'est dans le réseau, puis tu ne sais pas pourquoi cet organisme-là est là. C'est qu'il y a un...
Ça en dit long, là.
Ben oui, ça en dit long sur la gouvernance, ça en dit long sur l'utilité. Tu parlais justement de promesses réalistes. Mm-hmm. Et là, je t'amène à Sam Ahmad avant de te laisser partir. Et tu sais, de toute façon, en premier lieu, que c'est le face-à-face, c'est demain sur le boulevard.
Oui,
16h.
Soyez-y.
Dans Gravel, dans le retour, soyez-y. Ça va être vraiment intéressant de voir Bruno Marchand face justement à Sam Ahmad. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à dire sur le transport et la mobilité, l'économie, les relations avec les gouvernements, itinérance et sécurité, et Québec dans 15 ans. Donc, soyez à l'écoute. C'est demain, le 2 octobre, 16h, dans Gravel, dans le retour sur les ondes de Boulevard 102. J'ai adoré Sam Ahmad ce matin avec nous. Et hier, lorsqu'il a présenté justement enfin sa plateforme électorale, il aurait dû le faire bien avant.
Enfin, du contenu.
Ouais, c'est ça. Puis là, il est en retard. Mais... oublions tout ça et concentrons-nous sur la plateforme. Et je veux te faire entendre ce qu'il avait à dire sur le budget qu'il va proposer pour la Ville de Québec.
Je peux faire rêver mes citoyens de dire, bien, vous n'aurez pas de taxes à payer, vous n'aurez pas si, je vais être, tu sais, les gens vont être contents, mais il faut être réaliste, puis il faut regarder la faisabilité, comment on... Moi, c'est comme ça que je travaille, là, parce que faire des promesses juste faire plaisir aux gens, puis après ça, pas le faire, ça, je trouve, pour moi, c'est pas correct, c'est tricher. Et donc, on a analysé le cadre financier de la Ville. Pour ça, on fait des coupures de 200 personnes en passant. On gèle l'embauche, 200 personnes de moins, et par attrition, et on va faire des économies sur les dépenses de la Ville. Ça donne 96 millions d'économies qu'on va réutiliser dans l'amélioration de services.
J'adore ça. Il n'est pas arrivé en disant « je vais geler vos taxes, je vais les diminuer ». Vous allez voir, m'a coupé dans la machine de 200-300 millions. C'est terre à terre.
Je vais geler vos taxes, je vais couper des employés, mais vous allez avoir plus de services.
Plus de services.
Hey, plaidoyer pour des promesses non sexy.
Oui, j'ai adoré ça. C'est hyper terre à terre. Puis c'est, vous savez, les taxes vont augmenter, mais jamais plus haut que l'inflation. Puis vous allez voir, on va être en contrôle des dépenses.
Absolument.
Mais c'est pas vrai, je vous promettrai pas. Et je trouve que c'est un maillon faible, quoi qu'il fasse une campagne électorale très bonne et positive. C'est le maillon faible de Stéphane Lachance de dire « m'a baissé les commerçants de 10 %, vous autres allez avoir un gel de taxes ». Ça n'existe pas. L'inflation frappe trop fort. L'augmentation du coût frappe trop fort.
Parce que ça va faire un choc après. Ben c'est ça le problème avec les gels. Moi, je suis contre les gels dans la vie. Là. Trouve une solution qui n'est pas la solution facile de faire un gel puis dire mon successeur s'arrangera avec les troubles après. Des fois, ça fait des chocs tarifaires, ça fait des chocs fiscaux de faire des gels. Moi, je trouve pas ça hyper responsable.
Bien, ça fait 7,7 % à Lévis en 2024.
Voilà.
Et Gilles Laulier, sur nos ondes hier dans son entrevue, l'a dit. C'est une erreur de ma part, le 7,7%. Mais c'est pas une erreur de l'avoir faite à ce moment-là parce qu'il y a besoin de revenus. C'est une erreur d'avoir gelé les taxes 2 ans avant.
Ben c'est ça,
pour manger le 7,7%.
C'est rarement, honnêtement rarement une bonne idée, les gels. Là. Il y a toujours une solution qui est mieux adaptée. Je trouve que la plateforme de Sam Ahmad, il aurait dû l'annoncer, j'aurais tendance à dire, là, une semaine.
Tellement. Et je termine avec Sam Ahmad, la façon qu'il veut s'occuper de l'économie. Ça aussi, je trouve ça très intéressant parce que l'économie, c'est un maillon faible chez Bruno Marchand.
Première chose, je veux être le responsable du développement économique directement. C'est moi qui est responsable.
Alors, comment vous allez faire ça?
Bon, comment? Il y a plusieurs éléments. Première chose, on va faire un forum rapide économique pour voir, écouter tout le monde, puis voir une stratégie. Mais, ce qu'on fait après, on va prendre une centaine d'entreprises à Québec qui ont un potentiel. Ces gens-là, on va les accompagner à tous les niveaux. L'exportation, financement, ressources humaines, développement, développement durable, exportation, marketing. Et on va les amener plus loin.
Okay.
Deuxièmement, un élément majeur à Québec, le repreneuriat. Le repreneuriat, c'est un défi majeur. Parce que l'ancien propriétaire, il était dans ses modes à lui, puis là, le prix est très élevé pour les gens qui veulent le reprendre, et il faut s'adapter au nouveau marché, etc. On va les aider. Troisièmement, je vais faire de Québec un pôle d'intelligence artificielle. Actuellement, tout l'argent est à Montréal.
J'adore ça, parce qu'on a eu Frédéric Boisvert, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. C'est ces trois thématiques.
Oui, mais c'est ça.
C'est directement ciblé sur ce que les gens d'affaires ont besoin.
Mais c'est ça. Mais ça m'amène à te dire que je pense pas qu'on a besoin de faire un forum économique. On a besoin de faire quelque chose.
Des actions.
Tu sais, les gens, ils veulent pas être écoutés. Ils veulent qu'on se mette en action à Québec. On a besoin de se mettre en action. Intelligence artificielle, je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est un buzzword, là. Puis les politiciens, ils lancent ça dans les airs, puis tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des entreprises hyper intéressantes et performantes à Québec. Je dirais que la différence entre Montréal puis Québec, c'est que Montréal, il était beaucoup sur des trucs un peu... Tu sais, c'était bien marketing, là. Element AI, l'Institut Mila, l'intelligence artificielle... qui combat les changements climatiques, qui est éthique, etc. C'est un style, c'est correct. Mais à Québec, on a des entreprises qui ne font pas beaucoup de bruit, dont vous n'entendez pas souvent parler, mais qui vendent leurs produits à travers le monde et que ça produit de la richesse au Québec. Puis c'est vrai qu'ils sont très, très méconnus parce que c'est pas le genre à se mettre de l'avant, mais on a effectivement des champions à Québec en la matière.
En effet, donc, j'ai trouvé ces deux visions-là très intéressantes pour Sam Amman, honnêtement. Allez lire sa plateforme sur Leadership Québec. Moi, hier, je suis tombé sur un document de 7 pages que j'ai vraiment apprécié. C'est une très belle vision de la ville de Québec. Donc, je pense qu'enfin, on va avoir une campagne électorale
peut-être,
à Québec.
Qui sait?
J'ai bien hâte.
De gaffe, là. Plus de gaffe pour Sam Amman.
Plus de gaffe, puis pas de personnalité, là. Bruno Marchand, c'est ainsi. Sam Amman, c'est ainsi. Stéphane Lachance, c'est ainsi. Non, parlez-moi d'idées, parlez-moi de votre vision de la ville de Québec. Et d'ailleurs, je le répète, le meilleur endroit pour justement entendre le tout, ça va être demain, 16h, sur les ondes de Boulevard Sam Amman contre Bruno Marchand dans un face-à-face. On fait une courte pause et par la suite, c'est l'ami Lambert Drainville qui s'installe avec nous. On va faire un court retour sur le discours, justement, du premier ministre. Mais Lambert veut nous parler de cette étude du HEC concernant les médecins. C'est-tu vrai qu'ils ne travaillent pas assez? C'est-tu vrai qu'ils travaillent trop? Qu'est-ce qui se passe avec nos médecins? Le HEC s'est penché là-dessus. Lambert Drainville veut nous en parler. Il nous en avait glissé un mot, justement, la semaine dernière. Vous êtes sur Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase.